Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier, avec notre partenaire CNN, sponsor officiel de la guerre de Le Golf.
RTL, Sidonie Bonnet, Thomas Hugues.
En Coupe du Monde de guerre, dans le match qui oppose l'Amérique à l'Irak, on devra vraisemblablement jouer les prolongations. En tout cas, c'est ce qu'on a appris mercredi. En revanche, le match Israël-Irak a été reporté à une date non précisée par la Fédé.
La curiosité est un vilain défaut.
Quand les nuls parodient la guerre du golf, la guerre de Le Golf. Voilà, on vous raconte les guerres stupides dans la curiosité grâce à Bruno Fellini. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes historien, l'un des sociétaires de cette émission. Et vous avez donc répertorié les guerres les plus stupides de l'histoire. Alors, c'est toujours absurde, on a envie de dire ça, mais certaines sont franchement ridicules.
Oui, Prévert le disait, quelle connerie la guerre. Mais certaines sont tellement grotesque qu'elle méritait vraiment qu'on se penche sur elle. C'est ce que Bruno Leandri et moi avons fait. Par exemple, à un moment, l'armée australienne a déclaré la guerre aux émeus. Les émeus sont des oiseaux coureurs, qui ressemblent un peu à des autruches, et qui s'étaient mis à proliférer en Australie occidentale. Et donc, on a une idée géniale. En 1932, l'armée australienne a combattu pendant la Grande Guerre, et d'ailleurs très courageusement. Et donc, les vétérans de la Grande Guerre en Europe se disent, c'est simple, on va les éliminer avec les mitrailleuses lourdes, celles qui ont fait tellement de ravages dans les tranchées. Et donc, on envoie les artilleurs contre les émeus.
Comment réagissent les émeus? Ils ont une armée, ils réagissent très bien. Ils se dispersent.
Parce que, oui, une armée européenne, si vous lui tirez dessus, elle s'avance vers vos mitrailleuses et elle se fait hacher menu. Oui. Mais les émeus sont beaucoup plus intelligents. Ils se dispersent. Ils pratiquent spontanément ce qu'on appelle la guérilla. Donc là, l'armée australienne se dit, mince, ça va pas être aussi simple. Tant pis, on va faire autrement. On va charger les mitrailleuses sur des camions pour les poursuivre. Mais tout naturaliste vous dira qu'un émeu, c'est un oiseau coureur. Il court à 55 km/h. Ce qu'un camion des années 30 sur route rocailleuse n'arrive absolument pas à faire. Bref.
Vous allez nous dire que...
Oui, l'armée australienne a perdu. Les émeus ont gagné la guerre et il a fallu tracer une sorte de frontière, c'est-à-dire qu'il y a une barrière qui délimite aujourd'hui encore le territoire des émeus.
Donc on ne déclare pas la guerre à la nature, ça ne sert à rien.
On est d'accord. C'est une bonne leçon. Bruno Fellini, vous publiez avec Bruno Leandri Les guerres stupides de l'histoire, c'est aux éditions Les Arènes. On y découvre qu'au début des années 60, le général de Gaulle est, comment dire, d'humeur un peu belliqueuse. Ça commence en 62 avec la principauté de Monaco. Faut peut-être d'abord rappeler le contexte. Il est arrivé au pouvoir évidemment en 58, le général de Gaulle, la 5e République. Les relations sont plutôt bonne avec Monaco au départ ?
Au début, oui, d'autant que le prince Rainier est un ancien de la France libre, contrairement à son grand-père qui était plutôt pétainiste. Donc les relations sont au départ plutôt cordiales, et même le prince Rainier et sa jeune épouse Grace Kelly sont invités à l'Élysée. Ça se passe bien. Simplement, nous sommes aussi dans le contexte de la guerre d'Algérie et de la fin de la guerre d'Algérie. Et beaucoup de pieds noirs se rendent compte qu'ils vont devoir partir, et plutôt que d'aller en France, où en plus ils vont être taxés, eh bien il y a cette petite principauté au climat bien sympathique et à la fiscalité encore plus sympathique, puisqu'à l'époque il est vraiment très très simple d'y aller avec des capitaux et d'y monter une société beaucoup plus simple même qu'aujourd'hui.
Donc de Gaulle est très jaloux, c'est ça, de Monaco et...
De Gaulle est mécontent parce que en quelques années, ce sont 7000 Français qui s'installent à Monaco, et les flux, les capitaux brassés par la principauté vont plus que quadrupler. C'est un petit peu énervant. Et puis, il y a un deuxième point de fixation, c'est que cette Grace Kelly, elle est bien sympathique, mais elle est d'origine américaine. Entre-temps, il y a un Américain qui, comme elle, est d'origine irlandaise, qui a été élu à la Maison-Blanche, c'est Kennedy, et on commence à se demander si Monaco va pas être un petit peu un porte-avions des États-Unis sur le littoral français.
Sous influence américaine.
Et oui, d'autant qu'il y a un jeune fonctionnaire issu du département d'État qui a été recruté comme conseiller par le prince Rainier. Donc, tout ça crée une tension importante, et De Gaulle va d'ailleurs lâcher cette phrase historique, si Monaco nous emmerde, on fait le blocus, il suffit d'un douanier au Cap d'Ail, un douanier du côté de Menton, et plus personne ne peut circuler.
Et c'est ce qu'il va faire De Gaulle en 62 ?
Et c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'avec seulement 6 douaniers, sans pénétrer en territoire monégasque, mais c'est tout de même un acte d'hostilité alors que les deux pays étaient dans une situation, pour ainsi dire, d'union douanière, eh bien, avec 6 douaniers, on bloque des deux côtés la route, Et du coup, la principauté, qui est totalement enclavée en France, à part du côté de la mer, mais ne peut plus recevoir quoi que ce soit. En plus, ce sont des routes de corniche. Donc, il y a immédiatement un embouteillage monstre qui se crée. Et puis, les rumeurs les plus folles circulent. On parle d'invasion. On dit que la France va couper l'eau, l'électricité, et finalement, va s'emparer de Monaco.
Ça va durer longtemps, ce blocus de Monaco ça démarre en octobre 62, c'est ça ?
Voilà, et ça va durer quelques temps, jusqu'à ce qu'un traité soit négocié. Alors, pas un coup de feu, pas une goutte de sang, mais tout de même un blocus. Et finalement, ça va tourner plutôt à l'avantage de Monaco, parce que d'abord, la population a fait bloc autour de son prince, donc ça a plutôt renforcé Régnier dans sa principauté. Il a édicté une constitution qui modernise le pays. Ouais. Et puis, bien finalement, certes, les Français pourront moins facilement placer leurs économies à Monaco, mais en contrepartie, les étrangers beaucoup plus.
Eh bien, on va continuer de vous raconter comment le général de Gaulle, lors de cette année 62-63, a mené la guerre. Alors, après Monaco, on vous propose une guerre de la langouste. Ça nous embarque.
Il était fâché à l'époque. Hein.
Vers le Brésil, à tout de suite sur RTL.
Au cours de l'hiver 1969, un commando d'élite de l'armée américaine fut envoyé en mission ultra secrète dans le sud-est du Vietnam.
Thomas Hugues.
Son objectif, récupérer le sergent Feuille de Trèfle Tay Bach dans un camp de prisonniers sous haute surveillance. L'entreprise était considérée comme une mission suicide.
Sidonie Bonnec.
Sur les 10 hommes envoyés, 4 en sont revenus. Sur les 4, 3 ont écrit un livre relatant ce qui s'est passé. Sur les 3 livres, 2 ont été publiés. Sur les 2, un seul a été adapté à l'écran.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait
sur RTL.
De Tonnerre sous les tropiques, ce film de Ben Stiller, des guerres stupides dans les fictions, mais aussi dans la vraie vie. C'est ce qu'on raconte dans La Curiosité avec notre invité, l'historien Bruno Fulini. Vous nous racontiez le blocus de Monaco en 62 par le général de Gaulle. Et puis en 63, de Gaulle, qui ne se calme pas, se lance aussi dans un autre combat étonnant, c'est la guerre de la langouste. Qu'est-ce qu'il défend à ce moment-là ?
Il défend les pêcheurs français. Pendant très longtemps, les pêcheurs, en particulier bretons, allaient pêcher la langouste au large des côtes africaines. Mmh. Oui, mais au début des années 60, il y a eu la décolonisation. Et donc, il faut trouver d'autres zones de pêche. Donc, on quitte les côtes mauritaniennes et on se dit qu'il y a plein de langoustes de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du nord-est brésilien. Sauf que au Brésil, il y a une pêche à la langouste qui est une pêche plutôt vivrière, des petits casiers, mais ça sert à des gens qui vivent par ailleurs très pauvrement, et bien de pouvoir bien manger d'excellentes langoustes. Donc évidemment, ils voient d'un très mauvais œil arriver les pêcheurs professionnels français avec leur bateau qui enlève les langoustes. Et à partir de là, la marine brésilienne intervient pour arraisonner les bateaux de pêche français. Alors, une première fois en 1962, bon, ça se passe encore entre gens de bonne compagnie, les ambassadeurs échangent des lettres un peu aigres-douces, on a l'impression que c'est fini. Et puis ça recommence lors de la campagne de 1963.
Donc Alors, la France continue d'envoyer ses bateaux et ses pêcheurs.
Bah oui, pourquoi ? Parce que on n'est pas dans les eaux territoriales brésiliennes, on est au large, et vous savez que vous avez le droit de pêcher du poisson partout en eau internationale.
Mais est-ce que la langouste est un poisson ?
Et voilà. Et à partir de là, il y a une controverse qui s'installe. Vite, c'est que certes, les poissons, ça nage, ça fait partie de l'eau, mais les langoustes, elles font simplement des bonds dans l'eau, et sinon, elles reposent sur le plateau continental, autrement dit, le patrimoine brésilien. Et donc, alors ça aurait pu durer très longtemps, cette controverse juridico-biologique sur la nature poissonnière ou non de la langouste, bon, ça aurait pu nourrir des mémoires d'avocats pendant très très longtemps devant les tribunaux internationaux.
Les pêcheurs, oui.
Exactement. Sauf qu'à un moment, le Brésil emploie la manière forte et enjoint aux bâtiments français c'est de quitter le plateau continental. Et donc ça, c'est un acte quand même très hostile. Et on apprend immédiatement après que, tout simplement, le porte-avions Clémenceau, le croiseur de Grasse, les principales unités de la flotte française de Méditerranée ont passé le détroit de Gibraltar, entrent dans l'Atlantique et cinglent vers le Brésil. Alors là, la rumeur s'empare, on est en train de penser que la France va attaquer le Brésil. En réalité, la flotte française reste au milieu de l'Atlantique, un seul navire va vraiment dans la zone langoustière, mais c'est suffisant pour créer évidemment une petite tempête tempête médiatique.
Ça va se régler comment?
Ça va se régler en deux temps. D'abord, ça va monter très haut parce que, bon, évidemment, il va y avoir, on est en période en plus de carnaval, donc il va y avoir des attaques contre la France, une samba anti-De Gaulle. Et l'ambassadeur du Brésil à Paris, bien embêté, va dire à un journaliste, le Brésil n'est pas un pays sérieux lorsqu'il sort de l'Élysée. C'est une boutade de sa part, mais les journalistes pensent que c'est une phrase du général De Gaulle, ce qui crée un nouvel incident diplomatique. Bon, la tension va redescendre quand les diplomates travaillent sérieusement et finalement un arrangement est trouvé. La France va payer des droits de pêche et l'année suivante, le général De Gaulle est invité au Brésil par le président Goulart. Fin de l'histoire, mais parfois,
on ne sait pas s'il a dansé la samba.
On ne sait pas, ni s'ils ont mangé de la langouste au déjeuner officiel. Bah, en revanche, il y a eu des guerres de ce type qui ont vraiment dégénéré en guerre navale avec des morts. Par exemple, ça fait plus de 50 ans que les deux Corées s'affrontent sur des zones de pêche, et c'est ce qu'on a appelé la guerre du crabe. Et là, il y a eu des navires coulés, des tirs d'artillerie, des personnes qui ont été tuées pour des droits de pêche au crabe.
Autre histoire que l'on trouve dans votre livre avec Bruno Léandri, co-auteur, c'est publié aux Arènes, Les guerres stupides de l'histoire. Alors, on est le 28 février 2007, il y a 170 soldats suisses qui manœuvrent dans la montagne. Ils ne sont pas très loin du Liechtenstein. Qu'est-ce qui leur arrive ?
Alors, il faut bien se mettre dans le contexte. Vous l'avez dit, nous sommes le 28 février, donc c'est encore l'hiver. On est dans la montagne. La météo est épouvantable. Mmh. Il pleut, on n'y voit rien. La nuit tombe. On cherche désespérément un endroit où bivouaquer. Bon, on s'avance un petit peu au petit bonheur. En fait, cette unité qui est là en manœuvre est complètement perdue. Et donc, on s'avance. On marche, on crapahute. Et puis enfin, on arrive dans une zone un peu plus plate avec un magnifique cours d'eau. Donc on commence à respirer, on se dit qu'on va pouvoir camper. Puis il y en a un qui réfléchit, qui dit mais quand même, un gros cours d'eau comme ça.
Ils réfléchissent avec l'accent comme ça.
C'est des Suisses.
Et le problème, c'est que le cours d'eau, c'est le Rhin. En fait, on a franchi la frontière, on a envahi, sans le savoir, sans l'avoir fait exprès, par erreur, la Suisse a envahi le Liechtenstein.
Et on va raconter la suite de l'histoire dans un court instant. Est-ce que ça a dégénéré ou est-ce qu'au contraire, ça s'est bien passé entre les deux pays? Est-ce que c'était la première fois, cette invasion suisse au Liechtenstein? Réponse à venir sur RTL. Et puis on va vous raconter aussi une guerre beaucoup plus ancienne.
Des pommes.
Une hottée de pommes en Lorraine. Tout de suite sur RTL.
De vouloir vin rouge.
Eh bien sûr, monsieur, avec plaisir, vin rouge.
RTL.
Voudrais aussi à manger tout de suite.
Monsieur.
La curiosité est un vilain défaut.
Attention, je vais me fâcher. Si tu vas pas chercher la bouffe, on va tirer du canon dans ta boutique.
Non, j'y vais.
Sidonie Bonnec.
Demande à lui du halal.
Vous savez du halal ?
Du halal ?
Thomas Huc.
Mon camarade, il veut du halal. Allez chercher du halal.
Sinon,
boum !
Mais oui, donc passé la 7e compagnie, ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi bon. Et j'avoue que l'histoire, on vous raconte les guerres stupides de l'histoire grâce à notre invité, l'historien Bruno Fulini. Il y a un petit côté 7e compagnie avec nos 170 soldats suisses qui s'égarent au Liechtenstein une nuit de février 2007. Et donc ils se rendent compte, ils se retrouvent face au Rhin et donc ils disent zut, on vient d'envahir le Liechtenstein. Qu'est-ce qui se passe après ?
Alors évidemment, ils rebroussent chemin, et à la limite, au moment où ils s'en vont, les habitants du Liechtenstein ne savent même pas qu'ils ont été envahis. Simplement, une armée s'est organisée, on fait des rapports, et les rapports remontent les échelons de la hiérarchie. Là, en l'occurrence, c'est grave, donc ça remonte jusqu'au gouvernement, qui présente donc le lendemain des excuses à la principauté du Liechtenstein, laquelle découvre donc qu'elle a été envahie, en même temps qu'elle reçoit les excuses. Ouais. Et alors, ça les énerve un petit peu sur le moment, d'autant que 22 ans plus tôt, il y avait eu déjà un incident, puisque l'armée suisse avait fait un exercice avec des hélicoptères, avec des tirs de roquettes, et l'une des roquettes était tombée dans le territoire du Liechtenstein et avait incendié une forêt. Donc là, c'est la deuxième fois, ça suffit. Alors cette invasion ratée ou involontaire aura quand même eu un effet bénéfique, c'est que depuis cette époque, l'armée suisse est équipée de GPS, et donc ces unités, normalement, ne doivent plus se perdre dans la forêt.
Bon, c'est déjà ça. Bruno Fulini vous raconte plein de guerres stupides dans les guerres stupides de l'histoire publiées aux Arènes. Et parmi ces conflits idiots, il y a la hottée de pomme, la guerre de la hottée de pomme. C'est quoi déjà une hottée ?
Alors vous voyez ce qu'est une hotte, comme celle oui. du Père Noël, hein, ce panier qu'on porte sur les épaules. Donc une hottée, c'est le contenu de la hotte. En l'occurrence, nous sommes en l'an 1427, en Lorraine, et il y a un brave abbé qui, dans le jardin de l'abbaye de Saint-Martin-les-Metz, fait cueillir des pommes. C'est un coin où les pommes sont particulièrement bonnes, acidulées, savoureuses, merveilleuses. Et donc, il fait remplir une pleine hotte qu'il fait porter chez lui. Oui, mais lui, il n'habite pas à l'abbaye, il habite à l'intérieur de la ville de Metz, qui est voisine. Les deux paroisses se touchent. Hein, aujourd'hui encore, la commune qui s'appelle maintenant Ban-Saint-Martin et celle de Metz sont voisines, se touchent. Sauf qu'à l'époque, ça n'est pas la même unité administrative, si j'ose dire, parce qu'on est en un temps féodal. Donc, l'abbaye de Saint-Martin et les environs, eh bien, ça dépend du duc de Lorraine, tandis que la ville de Metz est une entité politique en soi, avec un personnage très puissant qui est son évêque.
Donc, on n'a pas le droit de faire passer des pommes d'une...
Des marchandises, c'est ça ?
Des marchandises d'une ville à l'autre ?
Mais il faut acquitter des droits de douane.
Ah, bien sûr.
Et donc, ce panier de pommes, cette hottée de pommes, évidemment, elle suscite la colère du duc de Lorraine, qui voit sans doute, au-delà de la toute petite somme que peuvent représenter les droits de douane sur un panier de pommes, il y voit l'occasion de rappeler aux habitants de Metz que chaque fois qu'ils entrent de la nourriture, eh bien, ils lui doivent de l'argent. Et pas si bête, les habitants de Metz soutiennent l'abbé Chaillot, qui refuse de payer.
Et donc, il va y avoir une escalade ?
Il y a une escalade, ce qui fait que le duc de Lorraine mobilise des troupes, commence par raser tout ce qui est un petit peu au pied des murailles de Metz. Alors, l'évêque de Metz la trouve un peu mauvaise, et au lieu de céder, eh bien, il fait appel à des mercenaires, à des combattants. Alors du coup, par le jeu des alliances, vous avez des troupes qui arrivent d'Alsace, de Bavière, enfin, et pendant 2 ans, eh bien, pour une hottée de pommes, la Lorraine va être mise en compote par...
Et que sont devenues les pommes ?
Elles ont fini par être mangées, mais ça veut dire que va y avoir même un siège de la ville de Metz, c'est ça ? On imagine la ville de Metz protégée par des murailles.
Il y a des murailles, effectivement. Ouais. Le duc de Lorraine, il voit l'occasion enfin de faire entrer la ville de Metz dans ses possessions. Et donc, il y a un véritable siège, sauf que les Messins ont vu venir la chose. Ils ont des mercenaires avec eux. Et puis, ils ont porté de lourdes bombardes en haut des murailles, ce qui fait qu'ils écrasent les troupes du duc de Lorraine qui doit reculer. Et donc, à la fin, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Metz reste indépendante. Le duc de Lorraine conserve ses terres. Personne ne paye les droits sur les pommes qui ont été mangées pendant le siège, bien évidemment.
Évidemment. On continue de découvrir ces guerres stupides sur RTL avec une guerre du football. On est en 1969. On va vous raconter cette histoire qui met aux prises le Salvador, et il manque un pays, le Honduras, à venir sur RTL. Et puis juste après, dans la curiosité...
Des spécialités culinaires de nos régions, vous allez voir. Il y a des spécialités qu'on a l'habitude de manger, par exemple la bouillabaisse, le cassoulet, tout ça. Et puis il y a des choses
fondue,
qui ont disparu, oui, tout ça. Puis il y a des plats qui ont disparu, alors on verra pourquoi. Par exemple la sanguette, une petite galette de sang, vous voyez, ou la graisse normande.
Ou le sac d'os aussi.
Du bon saindoux qui a cuit pendant 6 heures. Et ça fait partie de notre pays et de notre histoire. On vous raconte ça dans un instant sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 15h sur RTL avec notre invité Bruno Fulini. On découvre les guerres stupides de l'histoire. On est donc en 1969, Bruno, et c'est le foot qui va, le football qui va déclencher les hostilités. Entre quels pays ?
Alors, en l'occurrence, c'est le Salvador et le Honduras qui ne s'aiment pas, d'abord, et qui vont se retrouver aux prises, tout simplement parce qu'on est dans les préparatifs du Mondial de 1970. Mmh. Donc, ce sont des petits pays d'Amérique centrale, au sud du Mexique. Alors, le Honduras, c'est vraiment très, très petit, mais avec une population importante qui a tendance à déborder de l'autre côté de la frontière. Bon, ça, c'est le Salvador. Et puis, le Honduras, c'est un peu plus grand, mais beaucoup plus pauvre, et voit d'un mauvais œil arriver des Salvadoriens sur son territoire. Donc il y a déjà un terreau assez négatif.
Et il y a un match qualificatif entre les deux pays.
En fait, il y a 3 matchs.
Celui qui remporte les tests avec 3 matchs va aller à la Coupe du Monde.
Bon. C'est ça. Donc il y a un premier match qui se passe assez mal. Les Salvadoriens vont au Honduras et les Honduriens ne font rien que embêter les joueurs, font du bruit toute la nuit au pied de l'hôtel où ils doivent se reposer. Parce qu'ils arrivent au stade vraiment tombant de sommeil et ils se font battre 1-0. Et puis à la fin du match, comme il y a aussi beaucoup de Salvadoriens qui ont assisté au match, il y a une bagarre générale entre supporters. Bon, il y aura quand même 2 morts. C'est déjà une entrée en matière pénible. Du coup, il y a un deuxième match qui se passe de façon totalement symétrique et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et cette fois-ci, eh bien, voilà, c'est l'autre pays qui gagne. Donc, il va bien falloir les départager. Et c'est ainsi que le 27 juin 1969, date historique, a lieu en territoire mexicain, eh bien, le match décisif. Et alors, c'est un match qui va durer longtemps, sans résultat. Et c'est tout à fait à la fin, au tir au but, que le Salvador emporte sa qualification au mondial de l'année suivante.
Ça pourrait s'arrêter là, mais il va y avoir une guerre.
Bah oui, parce que vous imaginez qu'au Honduras, on est très mécontent. Donc les exactions se multiplient contre les Salvadoriens et on a le sang chaud au Salvador. Alors, bah, tout simplement, on bombarde. Et donc, nous sommes en juillet 1969. La capitale du Honduras, qui est, comme vous le savez tous, Tegucigalpa, est bombardée par de vieux appareils de la Seconde Guerre mondiale que le Salvador a acheté aux États-Unis. Et puis l'armée salvadorienne entre sur le territoire. Donc il va y avoir 4 jours de guerre, on l'appelle aussi la guerre des 100 heures. Après, les États-Unis et les autres pays vont dire « Eh oh, ça va pas la tête » et vont calmer le jeu. Mais en 4 jours de guerre, on aura fait 2 à 3 000 morts. Il y aura sans doute 20 000 personnes déplacées pour un match de foot.
Merci beaucoup Bruno Fulini. Avec Bruno Léandri, vous publiez donc « Les guerres stupides de l'histoire », c'est aux éditions Les Arènes. À bientôt Bruno.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.